Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La situation à Rouen est grave, concède le gouvernement, qui promet la transparence. 5 jours après l'incendie d'une usine classée Seveso, les établissements scolaires vont rouvrir ce matin. Mais l'inquiétude règne et certains enfants n'iront pas en classe, vous l'entendrez. Dans ce journal, nous évoquerons aussi l'hommage à Jacques Chirac. Après les Invalides hier, une messe solennelle aura lieu aujourd'hui dans une église. Et en classe, justement, les enseignants sont invités à parler de l'ancien président avec leurs élèves. Tous ne le feront pas. Notons aussi qu'au Maroc, le procès d'une jeune femme pour avortement illégal reprend ce lundi. Les femmes marocaines se mobilisent plus généralement contre ces mesures qu'elles jugent liberticides. Malgré les odeurs, quelques traces de suie et les inquiétudes, les écoles à Rouen et dans son agglomération rouvrent ce matin, 5 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol classée Seveso. Les autorités, et notamment l'Agence régionale de santé, assurent qu'il n'y a plus de pollution ni de risque pour la santé. Ce message toutefois passe mal auprès de beaucoup de parents d'élèves et de leurs enfants, comme ceux rencontrés par Thibault Lefebvre à Bois-Guillaume sur les hauteurs de Rouen.
Ambre, 9 ans, souffre de maux de ventre persistants.
2 jours après jeudi, j'ai vomi. Le lendemain, j'ai vomi. Juste avant, j'avais mal à la gorge.
Sa grande sœur, Noah, a elle craché du sang dimanche matin.
Dès que je me suis réveillée, j'ai eu du sang qui sortait de mon nez et de ma bouche.
Malades, Noah et Ambre n'ont pas ouvert une fenêtre depuis 4 jours. Pour la première fois ce matin, elles vont sortir de chez elles.
Mes amis sont inquiètes, moi aussi du coup. J'ai peur d'avoir des problèmes respiratoires, d'être pas bien, Enfin voilà. Aussi les coulures que j'ai vues dehors et puis l'odeur quand même qui reste de temps en temps me fait penser que pour moi... C'est pas encore réglé.
Des doutes partagés par la maman, Rachel. Pour elle, la priorité du moment, ce n'est pas l'école.
À partir du moment où il y a des symptômes physiques, j'estime que c'est dangereux. Je voudrais faire une prise de sang à mes filles et moi-même pour voir si tout va bien, hein, un bilan sanguin. C'est bizarre, on le sent, ça pique les yeux. Quand je vois des gouttes d'huile qui tombent lorsqu'il pleut, c'est juste pas possible. Et je pense qu'on n'a pas le temps nécessaire pour être sûr que tout va bien, quoi, tout simplement.
Le docteur, donc, avant l'école et en cas de résultat de prise de sang anormaux, Rachel envisage, comme d'autres riverains depuis vendredi, de porter plainte contre X.
Le Premier ministre Édouard Philippe, lui, s'engageait par ailleurs hier à la transparence totale concernant les analyses faites à Rouen. Un hommage populaire depuis hier aux Invalides avant une messe ce matin en l'église Saint-Sulpice à Paris et un enterrement plus intime cet après-midi. Ce lundi est une journée de deuil national en souvenir de Jacques Chirac décédé jeudi dernier. Les drapeaux seront en berne sur les édifices publics et les Français sont appelés à observer des minutes de silence à 15h notamment dans les salles de classe. Le ministère de l'Éducation nationale invite d'ailleurs les enseignants à évoquer s'ils le souhaitent la mémoire de l'ancien chef de l'État dans leur classe. Cela pourrait passer par un cours spécifique sur Jacques Chirac, une idée pourtant qui ne fait pas l'unanimité, Sonia Princey.
Le rôle de Jacques Chirac est abordé dans les programmes d'histoire en troisième et en terminale, notamment à travers les chapitres sur les institutions de la Ve République, le passage du septennat au quinquennat, ou encore sur les mémoires et la rafle du Vel'd'Hiv. Véronique Garrigue, qui enseigne dans un collège du Tarn, abordera ces thèmes plus tard.
Ça intervient plutôt au milieu de l'année scolaire, donc voilà, en termes de temporalité, là pour l'instant c'est... pas vraiment le bon moment pour nous. Donc, soit les élèves nous posent des questions, mais sinon on continuera le cours normal de la journée avec les élèves.
La plupart des professeurs d'histoire-géographie ne veulent pas être dans l'émotion. Amélie Artutas est responsable au SNES du groupe des professeurs d'histoire-géographie.
C'est toujours intéressant de parler des figures historiques, mais d'en parler en les contextualisant. En parler comme ça, comme un cheveu sur la soupe, je dirais, alors qu'on est en train de faire tout autre chose par ailleurs, si c'est juste pour le symbole et pour créer un moment de recueillement social, c'est pas le sens et l'objectif d'un cours d'histoire, en fait. On n'est pas là pour ça.
Certains professeurs jugeront au contraire que c'est l'occasion d'aborder un chapitre du programme, mais le ministère a bien précisé que ce n'était pas obligatoire.
Alors ce matin, en l'église Saint-Sulpice, près d'une centaine de personnalités politiques seront présentes pour rendre hommage à Jacques Chirac, notamment de nombreux dirigeants étrangers, du russe Vladimir Poutine, à Jean-Claude Juncker, encore président de la Commission européenne. D'anciens dirigeants seront présents également, mais peu de représentants américains. La Maison-Blanche a mis du temps à réagir, Loïc Loury.
L'ancien président Chirac a travaillé sans relâche pour préserver les valeurs et les idéaux que nous partageons avec la France. Ce communiqué est signé Mike Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Nous n'oublierons jamais, dit-il, qu'il a été le premier chef d'État à se rendre aux États-Unis après les horribles attentats du 11 septembre 2001. Et pourtant, il aura donc fallu attendre ce dimanche pour voir un responsable de l'administration Trump présenter ses condoléances et toujours pas un mot de l'actuel locataire de la Maison-Blanche. Du côté de ses prédécesseurs, Barack Obama est resté silencieux, tout comme surtout George W. Bush, à qui Jacques Chirac avait dit non sur la guerre en Irak. Pour un hommage appuyé, c'est à Bill et Hillary Clinton qu'il fallait remonter. C'était un homme d'État audacieux, talentueux, qui n'a, affirme-t-il, jamais varié sa défense des intérêts français ou sa recherche d'une Europe forte, unie et libre. Il semblerait toutefois qu'à Washington, on ait surtout retenu la belle bravade de 2003.
Donald Trump veut rencontrer le lanceur d'alerte qui a transmis le signalement sur son entretien téléphonique avec l'Ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain le décrit comme son accusateur. En juillet, il avait demandé par téléphone au président ukrainien des informations sur son rival démocrate Joe Biden et sur son fils soupçonné de corruption. Depuis, les démocrates aux États-Unis ont entamé une procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump, mais cette affaire pourrait aussi y toucher et ébranler Joe Biden. Quelle analyse en faire ? Nabila Hamel a posé la question pour France Culture à Corentin Célin, professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis.
Pour l'instant, il n'y a aucun élément judiciaire contre Joe Biden ou son fils. Le risque est politique. On sait depuis très longtemps que Hunter Biden, le fils de Joe Biden, est un handicap pour la campagne de son père. C'est un personnage fantasque qui a connu d'énormes difficultés personnelles. Et évidemment, le fait qu'il soit remis ainsi sur le devant de la scène, ainsi que ses, contrats d'affaires dans la foulée de son père lorsqu'il était vice-président, n'est pas très bon politiquement. Mais pour l'instant, il n'y a aucun fait de type délictueux ou même suspect qui ait été dévoilé. L'ironie de l'histoire de cette séquence, c'est qu'on peut trouver assez cocasse que Donald Trump fasse maintenant de la dénonciation. Il l'a dit encore hier sur son compte Twitter. Il veut nettoyer le marécage de Washington, nettoyer la corruption et le népotisme, alors que lui-même se voit reprocher depuis son entrée en politique la confusion totale des genres, avec sa fille et son gendre qui sont conseillers politiques à la Maison Blanche, lui-même qui n'a pas du tout, comme c'était la tradition, renoncé à profiter de ses intérêts d'affaires. Il n'a pas établi de muraille de Chine entre lui et la gestion de son entreprise depuis qu'il était à la Maison Blanche. Donc il y a une forme d'ironie à le voir aujourd'hui réenfourcher ce cheval de la lutte contre la corruption et le népotisme.
C'était Corentin Célin, professeur d'histoire et spécialiste des États-Unis. En Autriche, le chancelier conservateur Sébastien Kurz remporte les législatives. Le dirigeant de 33 ans sort même renforcé avec 33% des suffrages. En revanche, c'est son ancien allié, le FPE, à l'extrême droite, qui subit un net revers. Il perd 10 points et a fait savoir qu'il siégera désormais dans les rangs de l'opposition. La mobilisation de l'opposition russe hier a été massive pour protester contre la répression policière de leur mouvement de contestation lancé à la mi-juillet contre le Kremlin. 20 000 personnes se sont ainsi réunies hier à Moscou, demandant également la libération des opposants emprisonnés. Elle manifeste par les mots, dénonçant la pénalisation de l'avortement au Maroc et des relations hors mariage. Près de 7 000 personnes ont déjà signé une tribune en ce sens, qui avait été publiée par plusieurs personnalités marocaines. Toutes réagissent en fait à un procès d'une journaliste accusée d'avortement illégal, procès qui reprend aujourd'hui. Sonia Terab, réalisatrice marocaine, est l'une des rédactrices du manifeste. Elle nous explique comment avance leur combat actuellement.
L'idée, c'est de vraiment mettre la pression sur nos législateurs, sur le Parlement, pour que ces lois soient discutées. Donc, on réfléchit à déposer et une pétition, et ensuite une motion gouvernementale qui implique un projet de loi. Et surtout, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un vrai débat national au Parlement, retranscrit à la télévision, avec nous, mais aussi tous les acteurs de la société civile, les associations. Et c'est comme ça qu'on va sortir du virtuel et entrer dans le concret. Et là, on est en train de recevoir des centaines de témoignages de jeunes femmes qui ont ou avorté dans des conditions déplorables, ou bien on les accuse d'être dans la débauche, ou bien elles ont déjà été arrêtés par les flics. Et on récolte ces petits témoignages et on les poste de manière anonyme pour créer à travers l'empathie une identification. Et le Maroc, ça ne marche pas les manifestations. Et les gens ne prennent pas d'assaut la rue. C'est pas dans notre culture. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On a une jeunesse qui ne s'est jamais mobilisée, qui n'a pas d'espoir, qui se sent impuissante. Et si on utilise les outils pour leur parler, ben on les mobilisera. Il s'agit de mener un combat après l'autre. Et il s'agit aussi de donner l'exemple. Donc là, on a mobilisé sur cette cause. Demain, j'espère qu'il y en aura d'autres, des collectifs LGBT, etc. Mais l'idée vraiment aujourd'hui, c'est de dire aux Marocains, c'est possible.
Ces propos ont été recueillis par Théa Olivier à Casablanca pour France Culture. Le temps de ce lundi en France métropolitaine, il sera marqué par l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse par le nord-ouest. Météo France prévoit partout ailleurs quelques nuages. Comptez dans la matinée 16 degrés à Brest, à Lille et à Paris, 17 à Strasbourg, 20 degrés à Bordeaux et 23 à Nice.